Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 octobre l'an 2000 à Saint-Jodar.
Il faut maintenant voir ce qu'est cette philosophie de l'activité morale de l'homme, telle qu'on peut la présenter aujourd'hui. C'est sûrement une partie de la philosophie extrêmement importante. Elles sont toutes très importantes. La philosophie du travail artistique, de l'art, très important puisque c'est le point de départ. Alors on doit toujours soigner son point de départ. C'est toujours le commencement qu'on doit le mieux savoir. Petit Jean dit ça, n'est-ce pas ? On doit connaître parfaitement ça. La philosophie éthique, aujourd'hui, est particulièrement battue en brèche. C'est sûr, par l'art et par la science. On ne sait plus exactement quel est le fondement de la théologie morale. La scolastique faisait ça très bien, puisqu'elle descendait de la théologie, donc il y avait la loi donné à Moïse, la Torah. Jésus, ne supprimant rien à la loi demeurait. Et au point de vue théologique, c'est sûr qu'il est là un fondement très net, mais au plan philosophique, je ne peux pas prendre un fondement révélé. Je dois essayer de comprendre comment l'homme ne peut pas être sans une réflexion philosophique, être pleinement, être vraiment un homme, sans une réflexion philosophique sur l'acte moral. Aujourd'hui, on est descendu si bas que personne ne sait ce que c'est que l'acte moral. Alors il faut le redécouvrir et montrer que vraiment, il y a une analyse d'une activité typiquement humaine et tout à fait propre à l'homme. Et à ce point de vue-là, toute la philosophie grecque est très intéressante parce que on voit toutes les modalités à laquelle on peut construire une philosophie morale. Le stoïcisme est une philosophie morale. Je ne la suis pas. Mais c'est une grande philosophie morale. L'épicurisme est une philosophie morale. Je ne la suis pas non plus. Mais elle est intéressante. Dans toutes les périodes un peu décadentes, Épicure et le stoïcisme, pour renouveler, pour repartir, pour renouveler par rapport à cette décadence, se donnent à cœur joie. Sûrement que Le stoïcisme et Épicure représentent deux extrêmes de la vie humaine. Épicure, vous voyez, Épicure lui-même a une certaine dimension qui n'est pas du tout facile. Voir où on a la plus grande joie, la plus grande jouissance humaine. Ça part de la jouissance humaine. L'homme est fait pour avoir une certaine joie pour agir. Et c'est vrai, ça. L'homme heureux dans sa peau, de être joyeux, de pouvoir agir humainement. Et donc, la joie ou la jouissance est un caractère spécial de l'activité humaine. Et Épicure se pose la question où la joie et la jouissance est-elle la plus parfaite. Et pour lui, la jouissance est la plus parfaite dans une certaine contemplation. Une certaine contemplation. C'est pas la vraie contemplation, mais... Et Sénèque, c'est la morale du devoir. Ce que je dois faire, ce que l'homme doit faire, ce que Zeus me commande de faire. Il y a une certaine grandeur dans la morale de Sénèque. Les disciples vont moins loin que le maître, comme pour Épicure. Très vite, l'épicurisme, c'est la morale de la jouissance. Et alors, on a considéré que la jouissance, c'est avant tout une jouissance charnelle. Un laisser-aller à l'égard de la concupiscence. Alors que c'est pas ça du tout, Épicure. C'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus humain. C'est ce qu'il y a de proprement humain dans une jouissance sensible, charnelle. C'est pas un laisser-aller, c'est une certaine finesse de jouissance dans le bien sensible, le bien charnel. Et ceci existe en Grèce, avant Jésus-Christ, au temps où le christianisme arrive. C'est le stoïcisme qui existe à Rome et qui existe d'une façon belle, grande. Et les premiers chrétiens ont été frappés de cela. Et c'est sûrement cette première philosophie qui a servi de base au christianisme. Pas la morale chrétienne n'est pas stoïcienne, mais il pouvait y avoir des rapprochements. En Épicure, beaucoup moins, forcément. On ne peut pas dire que la morale chrétienne est essentiellement épicurienne. Que signifierait la taille du Père? Ce n'est pas précisément une taille qui laisse la jouissance passer en premier lieu. Et puis, il y a la morale de Platon, qui a une grande dignité. La morale de Platon est une morale qui dépend de la politique. Mais la politique est une politique qui implique une contemplation. Le roi doit être le seigneur et doit être philosophe. actif. Et Platon dit cette chose, que les vertus sont écrites en grandes lettres dans ceux qui gouvernent et en petites lettres dans les gouvernés. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui. Pour Platon, la morale est parfaitement réalisée, doit être parfaitement réalisée dans ceux qui gouvernent. Parce qu'ils contemplent. Grâce à leur contemplation, le point de vue humain doit atteindre toute sa taille. Donc, on voit une certaine morale platonicienne qui a sa grandeur. Et là-dessus, Aristote a essayé une éthique, à Nicodème, qui est spéciale d'Aristote. Vous voyez, morale aristotélicienne, morale platonicienne, morale de Socrate. Vous avez trois morales. Et puis ensuite, vous avez deux autres morales, stoïciennes. Pour aller vite, je crois qu'il faut toujours regarder ces cinq morales. C'est pour vous montrer que c'était classique, l'éthique. C'était ce qui était très important pour l'homme. Aristote a distingué nettement la morale artistique, l'art, et la morale. On peut dire que c'est des aspects tout à fait propres à Aristote. L'habitus d'art, et puis la prudence, la phronesis. Et la prudence, on la voit chez les sages. Et il y aurait une sagesse. S'il distinguera. Donc on aura donc six aspects de la morale, d'une certaine manière. Si on met le point de vue de la phronesis comme une certaine sagesse pratique, on aura ces aspects. C'est important de voir que tout de suite, la morale a pris des formes très différentes. Il y a sans doute quelque chose de vrai dans chacune de ces formes morales. Je crois que la véritable morale a quelque chose du stoïcisme, quelque chose d'Épicure, quelque chose de Platon, et la reine dominante, c'est Aristote. Mais c'est intéressant de regarder la philosophie grecque sous cet angle-là. Parce que si vous la regardez au point de vue métaphysique, c'est assez vite fait. Il n'y a pas cinq métaphysiques. Mais il y a cinq ou six vraies morales. Ça ne veut pas dire que nécessairement, hein, en toute vérité, la morale est quelque chose de très complexe. Et donc, si c'est complexe, c'est normal que la complexité fait que des éléments particuliers vont apparaître plus dans telle morale. Je crois qu'il y a une morale. Et je dis ça pas parce que, non pas parce que je prends Aristote, Mais je prends Aristote parce que c'est lui qui a saisi le plus profondément ce qu'est l'acte moral. Il a tellement bien saisi que Thomas d'Aquin s'en est servi de façon étonnante. Dans la somme, la seconda pars de saint Thomas et la prima seconde, donc la première partie de sa seconde partie, est très dépendante d'Aristote. C'est pas de la philosophie, puisque c'est de la théologie. Alors saint Thomas aussi fait attention à saint Grégoire, saint Augustin, qui tous ont élaboré une certaine morale. Je crois qu'on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans une morale. Je crois. On devrait vivre notre vie chrétienne avec une métaphysique, mais c'est plutôt rare. Tandis que vivre notre vie chrétienne avec une morale, on peut dire, c'est, je crois, tous les chrétiens. Mais il y a quelque chose de particulier. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'achève, lui permet d'avoir une certaine dignité, une certaine grandeur qu'elle n'aurait pas sans la grâce. Et c'est au point de vue moral qu'on le voit mieux. C'est pour ça que c'est particulièrement important. On peut étudier au point de vue philosophique, je crois, différents aspects de la morale et voir que la morale chrétienne implique une morale humaine, philosophique, que la grâce assume. Et c'est sûrement à l'égard de la morale qu'on peut parler d'une philosophie chrétienne. Je ne peux plus parler d'une éthique chrétienne. Mais c'est le seul lieu. Vous ne pouvez pas parler d'une métaphysique chrétienne. Ça n'existe pas. Parce que l'être est le même pour l'homme et pour le chrétien. Vous n'avez pas reçu au baptême une faculté nouvelle pour découvrir l'être chrétien. Est-ce que ça a un sens de dire être chrétien? Tandis que ça a un sens de dire éthique chrétienne. Alors pourquoi ça? Je me pose toute la question. Pourquoi je veux parler d'éthique chrétienne? L'éthique supporte l'attribut chrétien. Tandis que la métaphysique ne supporte pas le qualificatif chrétien. Cherchez vous-même, hein, pourquoi je ne puis pas dire métaphysique chrétienne. Et pourquoi vous pouvez dire éthique chrétienne? Du moins, j'espère. C'est important de réfléchir là-dessus. Je ne peux pas dire je ne peux pas dire être chrétien. On est un être chrétien, mais l'être est le même pour le chrétien et le non-chrétien. Le soleil se lève pour le bon et pour le mauvais. C'est le même soleil. Il n'y a pas un soleil pour la chrétienté, il y a un soleil pour les méchants. C'est le même soleil, c'est le même univers qui est pour les chrétiens et les non-chrétiens. C'est curieux ça, hein ? Jésus a fait ça curieusement. Comment ça se fait ? C'est très élémentaire, hein, ça. Et c'est important de se réfléchir là-dessus. Il y a une éthique chrétienne parce que Jésus apporte une nouvelle finalité. Il y a une éthique chrétienne parce qu'il y a une finalité propre aux chrétiens. Comme homme, le chrétien est un homme qui a une finalité propre. Par le fait même, il a une éthique propre, comme chrétien et comme homme. Comme chrétien, il atteint le Christ et l'atteint comme homme. Parce que et il reconnaît qu'il a une fin propre. Ma finalité d'homme chrétien, c'est de vivre avec le Christ et de jouir du même bonheur que lui éternellement. Ça, c'est ma finalité chrétienne. Et c'est ma finalité humaine. Je n'ai pas de finalité, je ne veux pas dire l'homme, il va aller pendant... Quand le chrétien est au ciel, il va aller se retrouver avec tous les païens. Non. La finalité est humaine étant chrétienne. Ma vie est une vie chrétienne. Est-ce que je peux dire que mon intelligence est chrétienne ? Et j'aborde le problème très simplement par le point de vue de l'attribution. Pourquoi je ne peux pas dire qu'il y a une métaphysique chrétienne ? Certains l'ont prétendu, certains l'ont voulu. Parce que mon jugement d'existence, qui fonde toute ma philosophie, est le même pour le chrétien et le non-chrétien. Au marché, le prix des carottes est le même pour le chrétien et le non-chrétien. Sauf si la commère qui vend est chrétienne, il dit ah, vous, monsieur le curé, c'est autre chose. Les carottes sont chrétiennes. Alors, parce que il y a comme ça des laissés-passer, on dira, oh, voilà, donc il y a des carottes chrétiennes. Non, la réalité, le Créateur a créé l'homme de la même façon s'il est devient chrétien et s'il n'est pas chrétien. Quand je dis que la grâce présuppose la nature, je veux montrer que la nature humaine est la même chez le chrétien et chez le non-chrétien. Donc, l'intelligence est avant la domination chrétienne et non chrétienne, elle est avant la foi. La grâce présuppose la nature. La foi présuppose l'intelligence. Et la réalité, l'être, est le même pour le chrétien et le non-chrétien. L'être n'est pas changé. Mais il y a la résurrection. Ah ! La résurrection, elle regarde mon être. Je sais que je ressusciterai. Je le sais par la foi. Je ne le sais pas du tout par ma philosophie. Mais la résurrection, est-ce qu'elle change mon être ? Ah ! Posez-vous la question, hein ? La résurrection, est-ce qu'elle change votre être ? C'est du côté de la vie chrétienne. Mon être humain ressuscité restera mon être humain. Sous une modalité différente. Et mais il n'y a pas un être chrétien. Il y a un être métaphysique, non chrétien. Non. Voyez, c'est pour ça que c'est si important la métaphysique. Parce qu'elle est fondamentale. Elle existe pour le chrétien et le non chrétien. Vous aurez toujours un dialogue possible au plan philosophique. Si votre philosophie est vraie. Mais au plan éthique, vous aurez des quantités de discussions entre les chrétiens et les non-chrétiens. Mais il y aura quand même toujours un terrain d'entente. Il faudrait toujours, dans les fameuses discussions entre chrétiens et non-chrétiens, distinguer cela est défendu pour le chrétien. L'avortement. Pour prendre. Cela est défendu pour le chrétien. Mais pour le non-chrétien, celui qui est à la politique, qui sait que dans son pays, il n'y a plus de majorité chrétienne. Il n'a pas le droit de mettre des lois qui sont pour les chrétiens. Que seuls les chrétiens pourront comprendre le sens. Nécessairement. Il doit donc comprendre comment, dans une éthique, je ne dis pas païenne, dans une éthique humaine et uniquement humaine, l'avortement n'est pas un acte humain. C'est un acte anti-humain. Il tue. Vous voyez que on est dans la complexité de la chose. Et il est utile, il est même nécessaire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de commun. Donc, qui est proprement humain entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Il doit y avoir quelque chose d'humain qui est commun. Je sais que la nature humaine, dans mes actes chrétiens ont quelque chose d'humain. sur quelque chose d'humain est le même pour les non-croyants? Ma grâce chrétienne fait que je n'ai qu'une seule vie, une vie chrétienne. Tout dans ma vie doit être changé par le levain chrétien. Et cependant, il demeure quelque chose d'humain que le non-chrétien peut comprendre. Et quelque chose d'humain, proprement d'humain, de moral, dont je dois être conscient et que je peux partager avec un non-chrétien. Pour cela, il est nécessaire de comprendre ce qu'il y a de moral, de proprement moral ou de proprement humain dans mon activité. Qu'est-ce qui distingue dans mon activité, humaine de mon singe à côté, qui fera extérieurement exactement le même geste, mais qui ne sera pas humain? Vous voyez le singe prendre une banane et manger une banane. Vous avez tous vu ça. Vous, quand vous prenez une banane et que vous mangez une banane, vous la mangez différemment. Non pas parce que vous commencez par la queue ou la tête, pas la tête. C'est pas ça. Vous la mangez différemment. Votre acte de manger une banane est un acte humain. Ça peut être un acte humain. Ça peut aussi être un acte semblable à celui du singe. J'ai, hélas, beaucoup d'hommes actuellement, ça devient ça. Je suis un homme normal, manger une banane, c'est un acte humain. Qu'est-ce qui le distingue? Matériellement, c'est le même. Peut-être que le singe mangera plus vite. Peut-être. Parce que l'homme, s'il est gourmand, il savourera la banane. Dès que le singe... J'ai rarement vu des singes qui savouraient une banane. Vous voyez, alors, là, l'intérêt pour nous, qu'est-ce qui fait qu'un acte est moralement humain? Et qu'est-ce qui lui permet d'être copié par un singe? Vous ne pouvez pas faire du saint jeune homme, et vous ne pouvez pas, en ayant éduqué le singe, faire que le singe mangera différemment sa banane. Voilà ce que le philosophe doit poser la question. Et c'est particulièrement important pour la philosophie morale. Parce que si mon acte n'est pas humain, je suis très bien. Je ne veux pas faire la philosophie du singe mangeant une banane. Non. Tandis que je fais la philosophie de l'homme mangeant une banane. D'un côté, son acte demande d'être analysé par le philosophe. Et de l'autre côté, son acte ne demande pas du tout d'être analysé par le philosophe. Au prochain numéro.